Bonsoir, merci d'être venu. Voilà, on a invité Daniel Le Couédic ce soir pour parler un peu du projet de Le Corbusier et de Norbert Bézard. On sait que Daniel Le Couédic est très sensible au projet, il a accepté notre invitation et nous sommes vraiment très heureux de l'accueillir et nous le remercions au nom de l'association. On a fermé les expositions le temps de la conférence. Ensuite, suite à la conférence, on rouvrira le moulin. Vous pourrez voir l'exposition que l'association a faite. Il y aura également dans la grange le film de Pierre Huyck que vous pourrez visionner, This is not time for dreaming. Et ensuite, à 21h, on vous donne rendez-vous sur l'île du Moulin pour un grand feu de joie, si le temps le permet. Et voilà, nous pourrons continuer à passer la soirée ensemble. Je remercie encore une fois M. Le Couédic d'être venu jusqu'à Piacé. Daniel Le Couédic est historien, architecte, et il est un fin connaisseur de Le Corbusier, je crois. On a parlé un petit peu avant, mais je crois que... Voilà, le temps est compté, je vais laisser la parole à Daniel Le Couédic, et je vous souhaite une bonne conférence, une bonne soirée.
Merci. Je propose de faire un essai sans le micro. Est-ce que vous m'entendez? Le son est peut-être meilleur, non? Qu'est-ce que vous préférez? Je le pense aussi, ce sera plus confortable. Donc je ne sais pas comment on l'éteint, ce micro, en revanche. C'est un peu juste?
Il y a de la place devant.
Alors je suggère aux mauvais élèves du fond de venir, comme on le fait dans les amphithéâtres, se mettre sur les premiers rangs. Ben, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Voilà, ce sera beaucoup plus sympathique. Bien écoutez, pendant que vous vous installez, je voudrais moi remercier Nicolas Hérisson, et je devrais dire le clan Hérisson, car c'est devenu une entreprise familiale que l'organisation de ces journées, pour m'avoir invité et surtout les féliciter pour cette entreprise qui vraiment n'allait pas de soi. Non, vous n'entendez pas. Bien, et là, tout va bien à nouveau. Bon, alors écoutez, je n'y couperai pas, ce sera donc avec le micro. Bien, je disais donc que je voulais remercier Nicolas Hérisson et tous ses proches qui organisent ces journées avec Maestria. J'étais vraiment tout à fait impressionné de découvrir ce qui n'est pas encore un musée, mais pourrait le devenir dans les années qui viennent, puisque je pense que les collections vont s'enrichir d'année en année. Et puis je voudrais aussi remercier M. Pierre Bézard, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, et c'est pour moi très émouvant de parler devant vous, et en ce lieu un peu mythique, puisque pour ceux qui connaissent Le Corbusier et souvent au travers de ses archives et de ses écrits, Piacé est un endroit bien connu, mais où on ne vient pas très souvent, et découvrir une telle animation ici est vraiment quelque chose de réjouissant. Alors écoutez, après en avoir discuté avec Nicolas, nous sommes venus à l'idée que cette causerie, c'est une causerie plus qu'une conférence, pourrait avoir deux volets. Le premier consisterait à mettre en perspective ce travail de Norbert Bézard, parce que, évidemment, on peut penser que c'est un personnage singulier qui a tiré de lui-même brusquement une théorie et même des doctrines qui n'auraient jamais été imaginées ailleurs et qui vraiment réussissent leur foyer. Vous le savez, les choses ne se passent pas tout à fait comme ça. On s'inscrit généralement dans une lignée, dans une histoire des idées. Donc je vous propose de retracer à grands traits cette grande histoire des idées qui se préoccupe de l'agriculture et de l'aménagement des territoires au travers de l'agriculture et de la ville, puisque je pensais ouvrir cette causerie par une phrase tirée d'une lettre de Norbert Bézard à Le Corbusier qui, le 2 mars 1933, disait « Cité radieuse, village radieux, c'est le plan total ». Et c'est bien de cela dont on parlera dans cette première partie, cette idée démiurgique que l'on peut réorganiser le monde, qu'on peut l'aménager de façon rationnelle, que l'on peut aller vers une société radieuse, un mot qu'affectionnait particulièrement Le Corbusier et que Norbert Bézard a repris. Et puis dans la deuxième partie, on regardera des choses plus événementielles, on parlera davantage de la relation de Le Corbusier et de Norbert Bézard, et aussi des du versant peut-être un peu plus ombreux de cette affaire, car bien évidemment, on le sait, l'utopie comporte toujours une part de totalitarisme, mais je crois qu'on est fondé à l'admettre dans la mesure où ces points de vue radicaux se heurtent à une dure réalité et que l'utopie ne s'impose jamais et qu'en réalité, c'est une relation dialectique qui s'instaure. Bien, donc, je vous le disais, bon... Ce plan total auquel aspirait Le Corbusier et son émule qui était Norbert Bézard, c'est une longue histoire, sans rentrer dans les détails. On peut dire que c'était déjà le projet, bien sûr, de l'Empire romain. Vous le savez, la centuriation romaine, ce cadastre agricole, organisait l'intégralité de l'Empire d'une façon extraordinairement rigoureuse, dont on voit encore les traces là où elle a pu se mettre en place pleinement, c'est-à-dire dans la région de Padoue et de Venise, les Graticolato. C'est un paysage qui est encore très marqué par cette organisation systématique du territoire, et puis bien sûr l'Africa Nova, puisque c'est ce continent neuf que Rome voulait véritablement organiser, a fait l'objet d'une partition orthogonale qui se lit très très bien encore en Tunisie. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu ces photos aériennes qui nous montrent ce damier implacable qui s'installait là, et à chaque fois il s'agissait de véritablement d'organiser sur des bases agricoles, car on l'oublie peut-être aujourd'hui, mais la colonisation, depuis ses origines, a toujours été fondée sur une volonté d'organisation de l'agriculture, qui était par excellence, bien sûr, fournisseuse de richesses. Bon, cette idée, on ne va pas rester dans l'Antiquité, c'était juste un rappel et un clin d'œil, mais on peut dire que pour notre histoire moderne, ou presque au sens des historiens, c'est vers le XIIIe siècle que cette idée a repris vigueur, après un Moyen-Âge que l'on a considéré, aujourd'hui on a fait litière de cette assertion, mais comme les siècles des ténèbres, lorsque les prémices, les premiers feux de ce qui deviendra la Renaissance se font distinguer, on va voir une organisation des territoires qui, là encore, aura pour but de réorganiser totalement ce que le Moyen-Âge a légué, et ce sont les fameuses bastides du sud-ouest. Vous savez, bastide, ça vient de bastia en latin, qui veut dire le chantier, ou de bastida en occitan. On a vu la création, là, de 400 villes nouvelles dans 14 départements d'aujourd'hui, à partir de 1222, la première, Corde. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer cette relation, encore une fois, à l'agriculture, à la mise en valeur des territoires, puisque ces bastides que vous connaissez, puisque ce sont des destinations de tourisme et de vacances aujourd'hui, étaient destinées d'abord à regrouper des populations errantes ou peu stabilisées, en tout cas, dans un certain nombre de bourgs, qui organisaient le marché rural. Ces villes sont toujours très spectaculaires parce qu'elles n'ont pas connu de développement pour la plupart d'entre elles, donc on les voit dans leur jus véritablement, et elles présentent ce plan orthogonal encore une fois, mais les deux axes principaux se poursuivent très loin dans la campagne et organisent le parcellaire rural, le finage comme on dit, et là encore on voit une volonté d'organisation totale du territoire. Alors j'ai parlé de la Renaissance, vous savez que c'est à partir de la Renaissance que ce que l'on vient d'évoquer va entrer dans les livres, et je crois que c'est très important pour ce que l'on va dire, puisque à la fois Le Corbusier et Norbert Bézard étaient des écrivains, pourrait-on dire. L'un a laissé de nombreux ouvrages, le second on a co-signé quelques-uns, mais a surtout laissé une abondante correspondance. Et à la Renaissance, c'est le moment où l'on commence à théoriser ces idées, non plus, je dirais, à les mettre en œuvre de façon parcimonieuse ou en tout cas sans laisser de traces théoriques. À partir de la Renaissance, on va produire des traités, c'est le nom qu'on donne à ces ouvrages, qui proposent de réaliser des villes idéales, mais pas seulement des villes idéales, qui se préoccupent toujours des territoires ruraux. Il s'agit, encore une fois, d'organiser le monde. Et à la Renaissance, on est encore au balbutiement de cette idée, parce que les moyens techniques ne sont pas là, mais il y a quelques régions qui vont connaître quand même des mises en valeur qui annoncent ces idées que l'on va revoir plus précisément tout à l'heure. Et je pense à la terra ferma vénitienne, la terre ferme, à proximité de Venise, que Palladio, l'un des auteurs de ces traités, va organiser, et on y visite encore, bien sûr, les grandes villas qui furent organisées, mais villas au sens de l'époque, c'est-à-dire grandes exploitations agricoles gouvernant une partie du territoire rural. On peut noter au passage que c'était des mises en ordre physiques du territoire, mais aussi des mises en ordre morales. À chaque fois, dans ces ouvrages, il y a l'idée, ma foi, qu'il faut réformer la société, que les choses ne vont pas de soi, que la société s'est écartée du droit chemin que peut-être l'Antiquité avait tracé pendant le Moyen-Âge, et qu'il convient de rétablir les mœurs, comme l'on dit, et l'aménagement des territoires est aussi un moyen de construire une société qui s'organiserait différemment. Alors là, on voit l'omniscience de la géométrie s'installer, et on la retrouvera bien sûr chez Le Corbusier, une géométrie qui est considérée comme une sorte de présence divine sur Terre. La géométrie, c'est celle qui gouverne aussi le mouvement des astres, la relation à l'univers, et comme dans l'Antiquité, eh bien, on considère que lorsque les choses sont géométriquement en place, physiquement, eh bien, probablement la société qui habite ces territoires est elle aussi dans les meilleures dispositions pour se développer harmonieusement. Alors, ces ouvrages sont des ouvrages très théoriques, mais ils vont connaître de nombreuses réalisations. Et si on cite un seul exemple, et en France, on peut parler de la ville de Richelieu, créée par le cardinal, qui est un pur exemple de cette mise en œuvre parfaitement géométrique de l'espace. La ville est conçue selon un axe de symétrie qui, lui aussi, se prolonge en campagne pour organiser le territoire rural. Il y a 24 îlots semblables, tous les édifices sont au module de 10 toises, et chaque appartement a des plans identiques. Cette idée que la répétitivité est un gage d'ordre et donc de raison. Et on peut noter au passage que la population ne s'y trompait pas. La ville de Richelieu, toute récente, toute neuve, a eu un visiteur de marque, La Fontaine, qui écrit à sa femme, époux aimant qu'il était, et qui lui dit que la population de Richelieu a dénommé la rue principale, celle qui fait axe de symétrie, la rue de la vertu obligée. Bon, donc cette relation de l'aménagement physique du territoire à l'aménagement moral des sociétés était bien compris. Alors, ce modèle va connaître de nombreuses évolutions. On peut s'attarder peut-être un tout petit peu sur le grand siècle, parce que c'est à ce moment-là, véritablement, que l'aménagement du territoire moderne va s'installer, et en utilisant une transformation ponctuelle, pour parler comme les mathématiciens, qui était l'homothétie. Vous savez tout ce que le roi a prononcé, cette phrase célèbre qu'on assène à tous les enfants, « L'État, c'est moi », eh bien, c'est bien de cela dont il s'agissait. Il considérait qu'il était le point focal de cette transformation ponctuelle, et Versailles devenait la maquette du monde, et de la France d'abord, du royaume, mais peut-être plus. Eh bien, là, on voit très bien que le château est le modèle de la ville, mais le jardin de Versailles est le modèle du pays, et son organisation extrêmement rigoureuse, qui livre les canons du jardin à la française, ce n'est pas simplement un caprice royal, ce n'est pas simplement un jardin d'agrément, c'est véritablement la préfiguration de ce que l'on entend faire, c'est-à-dire, pour utiliser le mot de l'époque, mettre le pays au carreau, et ce que l'on confie aux géomètres royaux et aussi aux cartographes. Alors, cette idée du XVIIe siècle, vous voyez qu'elle consacre un point focal, le roi, l'endroit où il habite, Versailles, un lieu prépondérant. Eh bien, le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, qui va venir derrière, eh bien, lui reprendra l'idée de la nécessité d'une organisation systématique, mais en revanche, il aura plus d'ambition encore. Il voudra non plus s'attarder sur le royaume, mais se consacrer plutôt à un projet universel. C'est le monde entier qu'il s'agit de mettre en ordre, et on parle aussi beaucoup aujourd'hui, on nous en rebat les oreilles, de mondialisation. C'est au XVIIIe siècle véritablement que naît la mondialisation et l'idée qu'il faut aménager l'ensemble de la planète si l'on veut véritablement aller vers une société d'égalité, de fraternité, telle que les Lumières vont commencer à la théoriser. Et à ce moment-là, eh bien, on ne peut plus accepter un point particulier, ce point focal de l'homothétie, c'est le carroyage qui va l'emporter, un carroyage grille indifférencié qui va bien montrer cette volonté d'avoir un monde unifié. Alors, c'est au XVIIIe siècle, on peut en dire quelques mots quand même, parce que, vous savez, Le Corbusier a pensé, Le Corbusier et ceux qui l'entouraient, c'est le grand homme que l'on célèbre ici, a toujours pensé qu'il inaugurait une époque nouvelle, l'ère machiniste dont il parlait. Aujourd'hui, les historiens des idées pensent qu'il était plutôt en train de clore le XVIIIe siècle, qu'il y a eu un grand cycle ouvert au XVIIIe siècle avec les Lumières et qui aurait connu son paroxysme dans le premier XXe siècle. Et des gens comme Le Corbusier sont davantage aujourd'hui considérés comme les plus, pour utiliser un mot trivial, les plus performants de nos philosophes des Lumières. Donc on peut s'attarder un peu sur les idées qui dominaient à cette époque. D'abord, l'idée que la ville ne pouvait plus être ce que Descartes avait dit, c'est-à-dire le retranchement de la sauvagerie. Hein. Les siècles précédents avaient pensé qu'il fallait se consacrer essentiellement à la ville et à son environnement, où là, l'homme pouvait dominer la nature, pouvait véritablement organiser les choses, mais que le monde était trop vaste, trop ensauvagé, à tous les sens du mot, hein, par la nature, par la faune, la flore, mais aussi par ces êtres humains qui n'avaient pas encore accédé à la connaissance, et que, ma foi, c'était un projet idéal peut-être, mais impossible à atteindre, que de se lancer dans une conquête de l'ensemble de la planète. Eh bien, le XVIIIe siècle, lui, n'aura pas cette pusillanimité. Il va, au contraire, penser que l'on doit véritablement se consacrer à cela. Et il va le faire, notamment par le biais d'un certain nombre de projets que les grands voyages, que les grandes prises de possession de territoires nouveaux et les nouvelles mises en valeur vont permettre. Et il y a un outil qui va être utilisé et qui montre bien ce basculement, d'ailleurs, c'est la cartographie. Quand on regarde des cartes du XVIIe siècle, vous voyez encore des sortes de tableautins. Vous voyez des bateaux représentés sur les rivières, vous voyez les montagnes rabattues pour vous en montrer la silhouette, vous voyez même quelquefois des nuages dans le ciel qui vous disent ce qu'est le climat que l'on peut attendre dans ces contrées. Au XVIIIe siècle, la cartographie devient implacable, elle est parfaitement abstraite, et surtout on inverse les feux. La cartographie n'est plus là pour représenter le monde tel qu'il est, la cartographie est là comme élément d'un projet, celui de transformer le monde, puisque la philosophie du XVIIIe siècle consiste à dire que la nature est un gisement, hein, mais qu'elle n'a pas de mérite en soi, elle ne vaut qu'au travers de la transformation et de la mise en valeur que les hommes vont produire. Il y a même des choses qui aujourd'hui nous font sourire au XVIIIe siècle. La plupart des philosophes, par exemple, attendent avec impatience l'évaporation des océans, qu'ils considèrent comme un reste du déluge et une sorte de présence malheureuse sur la Terre. La Terre totalement mise en valeur, eh bien, sera dépourvue de mer et d'océan, hein, ce que l'on attend. Et quand on s'intéresse, et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle les grands navigateurs n'avaient pas le droit à une grande reconnaissance. Plusieurs philosophes les appellent ces êtres amphibies, avec beaucoup de mépris. Ils sont utiles parce qu'ils vont découvrir des terres, mais cette passion pour la mer apparaît comme véritablement tout à fait louche. Hein. Et quand on s'intéresse à la mer, c'est la mer forcée qui plaît, ce sont les quais, ce sont les salines, là où l'homme est en train justement de mettre au pas, hein, cet océan. Bien, et le XVIIIe siècle, eh bien, dans cette ambition, bon, je vous l'ai dit, il découvre les vertus de la cartographie, mais il va redécouvrir aussi un genre littéraire qui était épuisé, tombé en désuétude, qui est l'utopie. Vous savez que le mot « utopie » vient de l'Utopia de Thomas More, hein, publié en 1516, ce récit qui, bien sûr, était contraint par les interdits de l'époque. On ne pouvait pas décrire la société à laquelle on aspirait, puisqu'elle aurait été contraire à l'ordre établi, contraire au pouvoir royal. Et vous savez d'ailleurs que Thomas More, mais pour d'autres raisons, a été condamné à mort et exécuté. Et donc, on se réfugiait dans des récits qui étaient toujours du même ordre. Hein. Des navigateurs partaient, et à la suite d'une tempête, venaient échouer sur une île. Et là, au miracle, ils découvraient une société très différente de la nôtre. Et Thomas More donne le coup d'envoi d'une formule et il décrit physiquement, hein, la société et ses installations. Et sur cette île d'utopie, hein, qui veut dire de nulle part, eh bien, tout est organisé de façon géométrique, tous les villages sont identiques, les villes sont à égale distance les unes des autres, et cette uniformité n'est pas gage de monotonie, comme elle le serait peut-être aujourd'hui, mais est gage de raison. Alors ce genre littéraire était tombé en désuétude, le XVIIIe siècle le ressuscite, et c'est au XVIIIe siècle d'ailleurs que l'utopie de Thomas More va connaître le plus grand nombre de ses éditions, puisqu'elle sera rééditée en 1715, en 1730, en 1741, en 1780, et on va écrire d'ailleurs à nouveau des utopies. La plus fameuse d'entre elles a été rééditée l'année dernière, d'ailleurs je vous le signale, elle est de Simon Tissot de Pateau, elle s'appelle « Voyage et découverte » de Jacques Massé, et je vous lis là quelques lignes de cette utopie, parce que ça donne la tonalité de ce XVIIIe siècle. Hein. « Tout le pays, aussi loin qu'il s'étend, se divise par cantons. Ils ont la figure d'un carré parfait, dont les faces sont environ longues de 1500 pas. Il y a dans un canton 22 habitations, lesquelles sont situées vis-à-vis l'une de l'autre, toutes d'une même largeur et hauteur. » Gardez ça en tête, quand on parlera de Piacé tout à l'heure, on n'en sera pas loin. Hein. Bien, et vous allez me dire, mais oui, mais tout ça, c'est de la littérature, de doux rêveurs, des utopistes, justement, hein, puisque le mot vient de là. Et non, le XVIIIe siècle, il passe à l'acte. Il passe à l'acte, et je vous en donne deux exemples, l'un qui est allé au bout de l'aventure, l'autre qui a connu des ajustements. Le premier, ce sont les Land Ordinances américaines, en 1785 et 1787. On décide que pour la conquête de l'Ouest, on ne peut pas laisser faire, qu'il faut organiser les territoires et qu'il faut mettre en valeur, surtout rapidement, sur le plan de l'agriculture, ces territoires que l'on va conquérir. Eh bien, que fait-on ? On décide de carroyer totalement les États-Unis. En 1785 donc, et en 1787, ce dessin est fait et tout l'Ouest américain est divisé en carrés de 6 miles de côté, de à peu près 10 km donc, divisé en 36 sections de 1 mile carré. Et c'est sur cette base que l'on donne les concessions aux colons. Donc au niveau d'un continent, et là encore on retrouve d'ailleurs l'idée que j'évoquais tout à l'heure de cette relation presque à l'être suprême, au grand architecte de l'univers, comme disent les maçons, puisque la première idée n'était pas de faire une grille, mais d'avoir plutôt une grille curviligne qui aurait été alignée eh bien, sur les méridiens. Donc eh bien là, on le fait véritablement. Et puis un autre pays, pourtant, qui lui était chargé d'histoire, parce qu'on peut penser que la vision, en tout cas, qu'en avaient les Américains de cet Ouest était que c'était une terre vierge, eh bien, souvenez-vous de vos cours d'histoire, peut-être du secondaire, de la Révolution, le 29 septembre 1789, Guillaume Touret, député devant le comité de constitution, propose le premier projet de départementalisation de la France. Et que propose-t-on ? 100 départements, tous identiques, tous carrés, que l'on soit en bord de mer, que l'on soit en haute montagne, la géométrie prime, 100 carrés, chacun de 18 lieues de côté, chacun divisé de manière à donner 900 cantons, eux aussi tous identiques. Bon, on est en train de revoir la division de nos territoires, comme vous le savez, mais on a perdu ce sens de la rationalité. Alors, j'ai insisté à plusieurs reprises sur le fait que l'agriculture était le moteur de cette affaire et que l'aménagement du territoire, en fin de compte, était né d'une vision de l'agriculture. Ben là encore, le XVIIIe siècle est extrêmement intéressant puisque c'est à ce moment que l'on crée les grands principes de l'économie moderne. Et vous savez que le mouvement qui lance ce processus de création de l'économie, c'est la physiocratie qui considère que tout part de l'agriculture et de la mise en valeur des territoires, avec un point de vue d'ailleurs, je dirais là encore, assez mystique. Pourquoi l'agriculture a-t-elle cette vertu suprême ? Eh bien parce qu'elle est la seule à multiplier les richesses. Avec une graine, on en obtient plusieurs, et donc il y a la nature nous offre cette possibilité d'un développement infini, alors que l'industrie naissante n'est considérée que comme là pour faire de la transformation sans création véritable de richesse. Elle crée le profit mais pas la richesse, contrairement à l'agriculture selon les physiocrates. Et donc le point de vue agricole gagne véritablement en importance, et c'est d'ailleurs au XVIIIe siècle que l'on crée les sociétés d'agriculture qui vont vraiment être le laboratoire de toutes les transformations de notre agriculture, mais au XIXe siècle, parce que la Révolution va bien sûr, interrompre ce grand projet. Mais par exemple, la mise en place du bocage, et ici dans un pays de bocage, qui se fait au XIXe siècle, est faite selon les principes du XVIIIe siècle, qui auraient aimé leur voir d'ailleurs beaucoup plus de rigueur dans l'installation, ce qui aurait été possible avant la Révolution et ne l'était plus après, puisqu'après la Révolution, il y a l'héritage, il y a le partage des terres, et donc la mise en œuvre, bien sûr, d'un remembrement systématique et d'une organisation du territoire, eh bien, doivent se mettre en place dans une toute autre logique que regrette d'ailleurs un des grands économistes du XIXe, qui est Frédéric Le Play. Donc, l'agriculture, outil de cet aménagement du territoire. Alors, la ville là-dedans, eh bien, elle va aussi être prise en compte très rapidement par ce qui n'est qu'utopie au départ, mais qui, là encore, parce que l'histoire s'accélère, va entrer de plus en plus vite dans l'ordre de la réalisation. La ville, eh bien, on va commencer à en faire une critique redoutable. Cette ville, brusquement, pourquoi brusquement ? Eh bien, parce que les États nationaux sont constitués, parce que les territoires sont pacifiés, parce que les moyens de déplacement se mettent en place de façon aisée. Eh bien, on pense effectivement que la ville, sous cette forme ramassée, dense, n'a plus véritablement de raison d'être. Et on va y voir plutôt un lieu de déchéance, où les hommes s'agglutinent, où de cette réunion excessive naissent tous les vices, se développent aussi tous les dangers, dangers danger de révolte, danger de promiscuité sociale, danger physique aussi, et naît à ce moment-là d'ailleurs aussi les idées hygiénistes dont on fait le procès aujourd'hui, mais il faut les comprendre, hein. Le XVIIIe siècle et plus encore le XIXe siècle, c'est le retour des grandes épidémies, la fièvre jaune, le choléra, qui décime véritablement les villes, et qui le fera d'ailleurs très tardivement, hein. La dernière grande épidémie de choléra dans l'Ouest français, c'est 1886. Hein. Bon. Donc, vous voyez que ces préoccupations hygiénistes que l'on brocarde aujourd'hui, elles avaient aussi des raisons d'être. Donc, cette ville qui avait été, et tout le monde le reconnaissait, le lieu de la civilisation, hein, eh bien, ne pouvait plus remplir son office. Il convenait, elle aussi, de la disperser. Alors, pourquoi la disperser ? Bah, d'une part, parce que pour les raisons que je viens d'indiquer, on pouvait concrètement le faire. Les déplacements étaient facilités, les territoires sécurisés, les frontières étaient défendues, il n'y avait plus besoin de se défendre morceau par morceau du territoire, donc la circulation était remarquable, la grande circulation internationale s'était mise en place aussi, et donc la dispersion de la ville apparaissait comme une évidence. Et elle apparaissait comme une évidence d'autant plus qu'on venait de théoriser l'homéopathie. Hein. Et vous allez me dire, on est bien loin de notre propos, ben, pas du tout. L'homéopathie, c'est l'idée que la dilution permet de conserver les principes actifs d'une substance. Eh bien, l'idée qui est développée en ce XVIIIe siècle, c'est que cette ville qui a fabriqué l'ordre, mais qui n'est plus capable de la contenir et de la détenir, eh bien, cette ville, on aurait intérêt à la disperser et elle garderait ses vertus actives, mais en allant coloniser des territoires beaucoup plus vastes. Et on commence à développer cette idée d'une abolition de la différence ville-campagne. Hein, c'est cette idée donc que le monde ne serait qu'un, et ce monde qui ne serait qu'un, d'ailleurs, on le voit dans tous les domaines, on conçoit aussi l'idée d'une langue universelle qui naîtra au XIXe siècle avec l'espéranto, qui n'a pas connu le développement qu'on escomptait, mais c'est la raison aussi pour laquelle, dès la Révolution, vous connaissez tous ces grandes déclarations contre les langues minoritaires, qui seraient le lieu de la superstition, de la bêtise, de la tradition qu'il faut détruire. Donc cette idée d'un monde unique passe aussi par un aménagement unique et une langue unique. Et on voit là venir des utopistes d'un nouveau genre. Ils vont abandonner le côté très littéraire, excessivement littéraire, pourrait-on dire, de leurs prédécesseurs, pour s'enticher d'économie. Et ces nouveaux utopistes seront même souvent, d'ailleurs, des chefs d'entreprise qui pensent que leur expérience dans le domaine de l'entreprise les prédispose à concevoir cette nouvelle réalité du monde. Et parmi ceux-là, il y en a un qui est sans doute le plus intéressant, c'est Robert Owen, qui est un Gallois, qui a eu un destin assez exceptionnel, puisqu'il a commencé à travailler à 14 ans, et il se trouve qu'il a inventé un perfectionnement du métier à tisser, qu'il a réussi à le faire breveter, il a fait une très grande fortune, c'est devenu un des plus grands industriels d'Angleterre, et au lieu d'en tirer la conclusion qu'en tiraient généralement les gens qui avaient des destins de ce type, et qui pensaient que c'était la preuve que le talent et le travail suffisaient, et que chacun pouvait s'en tirer, lui, il se persuade qu'il a eu de la chance, et qu'il se doit de secourir ses contemporains en produisant un système qui permettrait donc à tout un chacun d'exploiter au mieux ses dispositions. Et il en vient très rapidement à produire un projet d'aménagement du territoire qui n'est pas très éloigné de celui que Joseph Fourier produira en France, mais lui s'en expliquera peut-être mieux. Et je vous donne une description, selon Owen, de cet aménagement du territoire, ville et campagne fondues, vers lequel il faut aller. Il dit: il n'y aura plus ni rue, ni ruelle, ni cour, ni venelle, un tel milieu étant inférieur ou néfaste. La terre sera disposée de telle façon qu'elle formera sur toute son étendue une seule cité, composée de communes, chacune paradisiaque, reliée à toutes les autres communes du globe, jusqu'à ce que toute la terre ne forme plus, peu à peu, que cette grande cité unique qu'on pourra appeler la Nouvelle Jérusalem, ou le paradis terrestre unifié. Une société radieuse avant l'heure. Hein ? Bien. Donc, cette prophétie, parce que là, c'est à tous les termes de la prophétie, porte en filigrane ce que sera le slogan que Le Corbusier forgera et dont il se dotera, qui était « urbanisation totale ». et avec un mot urbanisation qui change de sens. Jusque-là, urbanisation, c'est urbs urbis, hein, du latin, la ville. Et là, brusquement, l'urbanisation eh bien, concerne tous les territoires. Et je vous signale qu'aujourd'hui, il y a peut-être des juristes parmi vous, hein, dans le droit, un plan d'urbanisme concerne bien sûr un plus aujourd'hui, un post hier, concerne bien évidemment la ville, mais aussi la campagne, et encore le milieu naturel, et même le fond des océans jusqu'à la limite des eaux territoriales, si on le souhaite. Hein. Donc cette urbanisation totale, qui était considérée comme utopique, elle est bien advenue. Ceci dit, il y a quand même un certain nombre de problèmes qui se posent rapidement et que nos utopistes, d'ailleurs, comprennent. Quand on parle, c'était le fait des poètes, des écrivains, de la ville, on parlait très vite de l'âme de la ville. Et ils sont bien conscients du fait que l'âme de la ville, ce qui fait aussi la richesse de nos sociétés, bah, peut-être ne connaît pas le même principe de dilution que l'homéopathie. Et qu'à disperser la ville, on perd peut-être quelque chose. Et ils s'en soucient. Et presque tous proposent une solution de remplacement. Mais comme ce sont des gens des Lumières, ils pensent que l'on peut mettre, que l'on peut tout déterminer et tout mettre à sa place. Vous savez, c'est le XVIIIe siècle qui invente la systémique aussi. Linné classe les plantes, les animaux. Hein, cette idée d'un grand tri qui va mener au zoning en urbanisme. Eh bien, ils pensent aussi que l'âme de la ville, l'âme de la cité, l'âme d'une société, on peut la mettre dans un endroit approprié. Et par exemple, Fourier propose la rue intérieure, où les hommes vont aller cheminant. Et même Owen pense que l'on peut obliger véritablement les gens à la pratiquer parce qu'il pense que la société est animée de tant de résistance qu'il faudra bien, à un moment donné, peut-être exercer une relative violence pour contraindre les gens à ce bonheur obligatoire, pourrait-on dire. Et Owen propose même de retirer les enfants aux familles à l'âge de 3 ans pour les élever collectivement et pour que cesse la transmission de la tradition pour entrer pleinement dans ce monde heureux auquel on est promis. Eh bien, vous irez revoir la maquette tout à l'heure, puisqu'on nous promet de rouvrir la salle après cette causerie. Eh bien, vous verrez qu'il y a un club dans le village radieux et qu'il y avait des clubs dans les villes que proposaient Le Corbusier et les urbanistes du XXe siècle. L'idée que ce qui se déroulait dans la rue, dans la promiscuité, dans la ville traditionnelle, eh bien, serait prié de venir dans des endroits spécialisés et organisés. Toutes choses qui adviendront, vous savez qu'on a créé des maisons de la culture, des maisons pour tous, des maisons de quartier, et puis même là, il y a eu la politique des 1000 clubs hein, dans les années 1970, en reprenant le terme qui avait été forgé par Le Corbusier. Certains trouveront d'autres noms, le mot club étant ambigu et renvoyant peut-être à une certaine Angleterre aristocratique, on le parlera d'accélérateurs sociaux, hein, on forgera des expressions de cette nature pour ces lieux. Donc, un monde parfaitement organisé. Alors, je vous ai dit que cette causerie aurait deux volets. Rassurez-vous, on en a fini avec ce volet historique, mais je crois que cette longue genèse était tout à fait intéressante pour bien montrer qu'il n'y avait pas ici d'idées sui generis autour des projets de Norbert Bézard et de Le Corbusier, mais que tout cela s'inscrivait dans une longue tradition. Et Le Corbusier, d'ailleurs, dans ses écrits, eh bien, à plusieurs reprises, cite Fourier comme un de ceux qui ont forgé véritablement sa pensée. Et d'ailleurs, quand il conçoit la cité radieuse, il la dote d'une rue intérieure, comme dans le phalanstère de Fourier, et il propose d'y installer 1500 personnes, comme dans le phalanstère de Fourier. Hein, donc la tradition là, urbaine, cette fois-ci, se maintient. Le grand ennemi de Le Corbusier, dans la joute à laquelle les urbanistes vont se livrer à cette époque-là, c'est Gaston Bardet. Ben Gaston Bardet, lui, il rend grâce à Owen, dont il dit qu'il est le plus grand penseur de l'histoire de l'urbanisme. Donc vous voyez qu'il reconnaissait cette filiation et que ce n'est pas une sorte de fantasme que je vous propose. Et d'ailleurs, eh bien, le... Ah, il y a une manifestation dans la salle. Donc, le projet de Piacé, puisque on ne va pas rentrer dans les détails, l'exposition vous en dit l'essentiel, mais vous savez que dans la collaboration entre Norbert Bézard et Le Corbusier, il y a deux volets. Il y a un volet théorique général et puis il y a une volonté d'application à Piacé. Eh bien, à Piacé, que propose Norbert Bézard et Le Corbusier? Mais c'est Norbert Bézard qui tient la plume, hein, l'idée est de lui, et puis c'est lui qui fournit, pourrait-on dire, le terrain physique et social de ce projet. Hein. Un rebombrement total des terres, systématique, dit-il, et le déplacement des populations, comme le prévoyaient nos utopistes. Parce que, bien sûr, l'histoire, d'un point de vue de moderne, a été absurde. Elle a été le fait de conflits, d'incapacités scientifiques et techniques, d'héritages malheureux qui font que ici les terres ont été préservées, là, elles ont été morcelées. Donc, pour eux, le territoire tel qu'il est, la propriété foncière telle qu'elle existe, la répartition des populations est une absurdité. Or, on veut entrer dans un monde de rationalité. En conséquence, il faut tout revoir, remembrement systématique, déplacement des populations. Et je vous cite là une lettre de Norbert Bézard à Le Corbusier, hein, qui dit, à propos de Piacé, « En divisant la surface totale de la commune, soit 1012 hectares, par la surface prévue de la ferme standard, soit 20 hectares, je retrouve exactement le chiffre de 50. » À l'époque, il y avait 51 exploitations agricoles à Piacé. Hein. « Nous aurons simplement, dit-il, simplement, à effectuer le remembrement intégral des terres et à déplacer un peu certaines exploitations. » Donc vous voyez que l'optimisme était de rigueur, et je vois que M. Pierre Bézard ne me démentit pas. Bon, donc, et il ajoute dans cette lettre, « Je me fais traiter de communiste par les braves gens des campagnes. » Or, communiste, il ne l'était pas. En tout cas, il ne l'était pas au sens que le mot avait pris en 1920, où l'on avait créé à Tours le Parti communiste français. Hein. Il n'était certainement pas marxiste. En revanche, il appartenait à une autre tradition, dont on peut dire qu'elle est communiste, mais il faudrait mieux dire libertaire. C'est le socialisme proudhonien, mutualiste, hein, qui avait trouvé un second souffle avec Georges Sorel, qui est un personnage bien oublié aujourd'hui et qui pourtant a eu une très grande importance. Il a théorisé le socialisme d'action directe, dont se sont imprégnés des gens comme Fernand Pelloutier, par exemple, qui ont créé les premières bourses du travail. Aujourd'hui, une bourse du travail, c'est un endroit où les syndicats ont leur bureau, mais à l'époque, c'était véritablement les travailleurs qui se retrouvaient là, qui, entre eux, concevaient des systèmes mutualistes de retraite, d'aide aux plus démunis. Hein, donc, cette idée d'un socialisme qui part de la base, basiste, diront les communistes marxistes qui s'opposent à ce système, hein, eh bien, cette vision des choses, Norbert Bézard l'avait découverte en étant lecteur de Plan et peut-être en étant lecteur aussi du Nouveau Siècle avant Plan. Alors, c'est l'occasion peut-être de s'expliquer sur une phrase peut-être un peu trop ramassée dans l'exposition qui fait réagir, je l'ai vu tout à l'heure, quelques visiteurs, où on dit qu'il a été, Norbert Bézard, impressionné par les idées du faisceau et qui était un mouvement fasciste. Mais ces mouvements des années 1920 n'ont rien à voir, bien sûr, avec le fascisme qui a dérivé dans cette alliance avec le nazisme et qui a donné ce que nous savons. Et pour vous en convaincre, je vous dirais que celui qui a créé le premier parti fasciste français et la revue Le Nouveau Siècle est mort en déportation à Bergen-Belsen, ce qui montre bien qu'il y a eu différents destins. Et donc, c'est effectivement à la lecture de ces journaux que Norbert Bézard a découvert ses idées, et il s'est rapproché assez vite de deux personnes, l'une qui est un personnage considérable, et je conclurai cette causerie en rappelant son destin, qui est Philippe Lamour, et qui était un avocat, mais un avocat très, très particulier, engagé dans le débat d'idées, et l'autre un médecin, Pierre Vinter. Il deviendra, Norbert Bézard, très proche de Philippe Lamour, qu'il tutoyait, qu'il appelait par son prénom, et il gardera un peu plus de distance avec Vinter. Mais c'est là qu'il va aussi découvrir une autre personne avec qui il va correspondre, qui est Hubert Lagardelle. Hubert Lagardelle avait été un ami de Sorel, avait été le créateur et l'animateur de plusieurs journaux socialistes qui avaient eu un poids très, très important, et qui avait aussi rencontré le premier fascisme, puisque Mussolini a écrit que c'était en lisant le journal que faisait paraître, le journal éminemment socialiste que faisait paraître Lagardelle, qu'il avait conçu les principes du premier fascisme. Donc c'est bien dans ce creuset que ces idées sont découvertes, mais ce ne sont pas des gens de parti, ce ne sont pas des gens qui sont décidés à livrer un combat politique classique, ce ne sont pas des gens qui sont attirés par le pouvoir. Ce qu'ils voient dans ces idées, c'est le planisme. C'est le nom que l'on va donner avec cette idée, eh bien, que le fondement de toute politique, ce n'est pas l'accession au pouvoir, c'est l'organisation de nos territoires et de nos sociétés. Et donc, c'est bien de ce planisme dont il s'agit. Mais c'est vrai aussi, et c'est une ambiguïté qu'on ne peut pas gommer, que ce planisme, eh bien, ne pouvait pas se satisfaire de la démocratie parlementaire et représentative telle qu'on la pratiquait. Et d'ailleurs, dans Plan et dans Prélude, eh bien, on dit à plusieurs reprises que le rôle historique de la démocratie représentative est épuisé et qu'il faut inventer un autre système. Alors, quel est cet autre système? Eh bien, il nous ramène à notre projet. C'est un système fondé sur deux éléments essentiels, Le premier, c'est la prise en considération de la communauté de base. L'homme réel, la société réelle, c'est une société, cette communauté de base, elle est constituée autour du travail. Et d'ailleurs, Norbert Bézard reprendra dans plusieurs de ses lettres des idées de Robert Owen. Robert Owen avait proposé de remplacer la monnaie classique par une monnaie équivalent travail. C'est-à-dire que bon, l'heure de travail aurait été la monnaie, véritablement. Il propose de reprendre cette idée. Et c'est là, autour du travail, dans la communauté véritablement localisée de cette action menée en commun, eh bien, que se fonde la société essentielle. Et il y a d'ailleurs des choses assez touchantes chez Norbert Bézard, parce que lui, qui était si projeté dans l'avenir, dans plusieurs de ses lettres, il montre une certaine fascination pour la commune et même la paroisse des origines. Lorsque le chef de clan prenait possession d'un territoire et fondait véritablement une collectivité très, très fortement liée, et il a des mots très touchants sur l'Église. C'est la seule chose qu'il ne veut pas déplacer à Piacé, hein, donc vous voyez, tout est bien. Et d'autre part, le maire, qu'il ne considère pas comme un élu comme les autres, mais comme quelqu'un qui serait véritablement le représentant de tous les habitants d'une commune. Donc, premier élément, la communauté de base. Et puis, le deuxième élément, et c'est là qu'on touche à l'ambiguïté jamais levée, c'est l'instauration d'une autorité supérieure. Alors, ce mot autorité, il revient très souvent. D'ailleurs, Le Corbusier, son livre majeur, peut-être, qu'il a publié en feuilleton dans Plan, c'est La ville radieuse, qui est publié en 1935. Elle est dédiée, ce livre est dédié à l'autorité. Mais il ne dit jamais qui est cette autorité. Norbert Bézard, lui aussi, en parle. Il dit l'autorité, eh bien, permettra de chasser la sale politikairie, dit-il dans une lettre. Alors, quelle est cette autorité ? Quand on essaye de croiser les éléments que nous offrent des correspondances, des ouvrages, eh bien, on y voit une sorte de haute autorité technocratique. Alors, le mot technocrate, technocratie, aujourd'hui, hein, c'est pas un compliment quand on traite quelqu'un de technocrate. Eh bien, le mot technocrate, au sens moderne, a été utilisé pour la première fois par Hubert Lagardelle, un des fondateurs de Plan et un des compagnons de route de Norbert Bézard et Le Corbusier. Et c'est l'idée, ma foi, que notre monde est devenu si complexe, eh bien, qu'il faut en donner les rênes, pourrait-on dire, à ceux qui savent et qui ont la compétence. Et donc, ce sont les ingénieurs, ce sont les médecins, ce sont les architectes, pourquoi pas, ce sont les paysans qui devront mener à bien cette société. Et comme cela sera bannie la sale politikairie qui s'éloigne des problèmes concrets, des problèmes réels. C'est sans doute cela l'autorité dont on parlait. On en dira un mot tout à l'heure, parce que d'autres auront cette idée, et je pense au général de Gaulle, par exemple, hein, qui longtemps aura l'idée de remplacer le Sénat par un conseil économique et social où seraient représentés les métiers et les compétences. Hein, donc c'est une idée qui revient très, très régulièrement, jusqu'à une période, somme toute, relativement récente. Mais il y a un personnage supplémentaire. Là, j'ai cité les médecins, les juristes, les ingénieurs, les architectes. Mais il y a l'artiste aussi, et on le voit très bien dans Plan et dans Prélude. Et ça, c'est une idée de Georges Sorel, une idée sorelienne, que le monde serait rassi, desséché, s'il n'y avait que les compétences scientifiques et techniques, et l'artiste est celui qui peut agir comme une sorte de médium entre les hommes, maîtres de désir et d'inconstance, et puis ces techniciens, êtres de rationalité, et qui peuvent faire jaillir donc quelque chose qui vient sublimer nos sociétés. Bien, donc, c'est dans ce contexte que le village radieux a été conçu et publié, puisqu'il a été publié dans Prélude, hein, vous voyez un facsimilé dans l'exposition, qui est le journal qui va succéder à Plan, qui se dit organe du comité central d'action régionaliste et syndicaliste. Alors, régionaliste, ce n'est pas au sens de ceux qui chantaient les louanges des feux de la dernière des sociétés paysannes en voie de disparition. Hein. C'est un régionalisme volontaire, organisateur. Dans Plan et dans Prélude, plusieurs grands géographes de l'époque, Aldo Dami, qui aura la chaire de l'Université de Genève, et puis Victor Desnay, qui était à Timișoara, vont penser à une redivision de l'Europe. Toujours cette idée que tous les territoires sont à conquérir, c'est de ce régionalisme dont il s'agit. Et syndicalisme, ben, ce ne sont pas les centrales d'aujourd'hui. Syndicalisme, c'est bien la racine, hein, qui veut dire ensemble, c'est la communauté de base qu'il convient d'établir. Et ce journal se proposait d'établir, c'est son expression, les thèmes préparatoires à l'action. Mais évidemment, dans une société comme la nôtre, aussi densément peuplée, aussi organisée, cette action était bien difficile à conduire. Alors, dans un premier temps, Le Corbusier va imaginer des horizons beaucoup plus lointains. À la fin des années 30, je précise qu'il n'y a pas la moindre trace d'antisémitisme dans les propos de Le Corbusier que je vais évoquer de façon rapide. Il découvre, comme toute l'Europe, le problème juif. Il voit les juifs qui quittent l'Allemagne, qui quittent la Hongrie, qui quittent la Roumanie et qui affluent vers l'Angleterre et vers la France. Et Le Corbusier dit, la France et l'Angleterre ne pourront pas les accueillir tous, il faut donc les installer quelque part. Et il a cette illumination, il dit, c'est l'occasion. De tester la formule du village radieux. Alors, il y a quelques textes où il passe toutes les terres encore libres, ou présumées-elles, en tout cas, sur notre terre, et il jette son dévolu sur la Guyane, et il produit, avec des mots, il ne l'a pas dessiné, mais un projet de mise en valeur de la Guyane avec des villages radieux, et dans un deuxième temps, avec une ville radieuse et des cités radieuses. Et il y a une phrase qui nous apparaît assez terrible quand on l'a dit aussi brutalement, mais qui s'explique bien. Il dit « Ils accepteront car ils sont habitués au ghetto ». Mais par ghetto, ils ne voyaient pas l'enfermement obligatoire et la maltraitance, ils voyaient la vie de solidarité et l'idée que l'on pouvait vivre véritablement un projet commun. Et ils voient là, dans ces populations juives qui quittent l'Europe centrale, encore une fois, ceux qui pourront mener à bien ce projet. Quand il passe en revue l'ensemble de la planète, il s'attarde un instant sur la Palestine. Et il dit non, là ça va être trop compliqué, il dit en substance. Et il a bien raison, puisque vous savez que dès la fin du XIXe siècle, il y a un projet de réinstallation des Juifs en Palestine. Or, comment font-ils les Juifs pour se réinstaller? Ils développent un projet de colonisation agricole. Et ils créent dès 1882 ce qu'on appelle à l'époque les knouzotes, qui vont devenir les kibbutz. Et les kibbutz, ce sont des villages radieux. Et on ne peut pas imaginer que Le Corbusier ait ignoré ses premiers kibbutz. Vous savez que les kibbutz, après, ont dégénéré, ont accepté des activités industrielles, et puis sont devenus bien d'autres choses que ce qu'ils étaient à l'origine. Les kibbutz, qui étaient même totalement fondés sur des idées owéniennes, ont retiré les enfants aux familles, effectivement, non pas à l'âge de 3 ans, mais à l'âge de 2, pour les élever collectivement, pour former la nouvelle société juive de Palestine. On voit que là, la grande histoire rejoint notre histoire de l'urbanisme. Alors, la tentation de l'ailleurs, de ces territoires à conquérir, reviendra périodiquement, et quand Robert Bézard connaîtra un certain nombre de problèmes, et aura quitté Piacé déjà, se sera installé à Paris où il est devenu artiste, il imagine lui aussi de partir mener une aventure agricole loin. Le Corbusier l'aide à trouver des destinations et on passe en revue le Canada, l'Australie, la Colombie, ces pays neufs et vierges, enfin tels qu'ils les conçoivent, où l'utopie pourrait advenir. Est-ce à dire que l'on abandonne pour autant l'idée d'intervenir en France ou en Europe? Non, il y a deux exemples qui le montrent bien. Le premier, Le Corbusier, après la débâcle, pendant la Seconde Guerre mondiale, quitte Paris et va s'installer à Auzon, qui est un petit village des Pyrénées, bien connu aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs sculptures de Le Corbusier qui portent ce nom énigmatique, Auzon 1, Auzon 2, Auzon 3. Auzon, c'est un petit village donc où il séjourne quelques temps, et on ne le sait que par la correspondance, car on n'a pas retrouvé les plans. En partant, il offre au maire d'Auzon un projet de village radieux, pour lancer là-bas la grande révolution à laquelle, de l'organisation du territoire, à laquelle il aspire. Mais plus sérieusement et de façon plus ambitieuse, et cela on s'explique mal d'ailleurs que le projet ne soit pas allé à son terme, c'est la grande aventure qui commence en 1947 dans le Bas-Rhône et dans le Languedoc, et qui commence à l'initiative de Philippe Lamour. Alors Philippe Lamour, souvenez-vous, on l'a quitté fondateur dans les années 1920 du faisceau des producteurs et des combattants, premier parti fasciste français. En 1936, il est candidat du Front populaire, vous voyez que l'histoire pouvait aller vite aux élections, candidat malheureux, mais il devient un grand avocat très, très célèbre. Vous suivez tous les rebondissements innombrables de l'affaire Cessnec. Il est avocat au procès Cessnec, et puis avocat du grand procès de Valois contre l'Action française. C'est devenu un personnage considérable. Et pendant la guerre, lui, comme beaucoup, il se replie dans une ferme et il découvre véritablement l'agriculture qu'il connaissait mal. Il venait du Nord, région industrielle, il était avocat et il connaissait bien sûr les projets de Le Corbusier, mais sans plus. Et là, il découvre vraiment concrètement, pendant plusieurs années, l'agriculture et il en déduit qu'il faut transformer tout ça. Et il va passer à l'acte, puisque dès décembre 1944, il crée la Fédération des vins de qualité du Languedoc-Roussillon. En 1945, il crée la Confédération générale de l'agriculture, dont il est le secrétaire général, qui se transforme en 1954 en la FNSEA, qui est toujours là. Donc, il entre très concrètement dans la transformation de l'agriculture française, il est le père, longtemps adulé, aujourd'hui vilipendé, de l'agriculture productiviste française. Bon. Donc, il s'intéresse à l'agriculture, et plus que cela, mais il s'intéresse toujours à l'aménagement du territoire. Et il regarde la France, et il trouve que la France est extrêmement mal mise en valeur, spécialement dans sa région de prédilection, qui est le Bas-Rhône. Et il crée, en 1947, il crée une première association pour la mise en valeur du Bas-Rhône Languedoc, qui en 1956, c'est-à-dire 9 ans plus tard, devient la Compagnie du Bas-Rhône, qui est la première société d'économie mixte de France, appelée à faire école, donc. Et là, ils vont réaliser, pour de vrai, comme disent les enfants, 170 km de canaux, 500 km d'irrigation, 100 000 hectares irrigués. C'est la plus grande opération de mise en valeur d'un territoire réputé inculte ou presque jusque-là. Et en 1957, ils demandent à Le Corbusier de créer des villages radieux pour repeupler toute cette région qui doit connaître une nouvelle occupation humaine. Et ça n'aura pas d'aboutissement. Nous sommes en 57, Norbert Bézard est mort en 56, il n'est plus là peut-être pour stimuler Le Corbusier. Et à partir de là, d'ailleurs, Le Corbusier, qui reçoit de grandes commandes, dont Chandigarh, se désintéresse de l'agriculture. Et pourtant, le village radieux est sans doute le projet qu'il a publié le plus souvent. Je vous en donne la liste. Dans Prélude, bien sûr, dès 1934, mais dans La ville radieuse, dans Des canons, des munitions, Non merci des logis, un livre rare que vous trouverez là dans l'exposition, qui accompagnait la présentation du village radieux à l'exposition internationale et universelle de 1937 à Paris, puis encore dans Le lyrisme des temps nouveaux et l'urbanisme en 1939, dans Sur les quatre routes en 1941, dans Les trois établissements humains en 1945, si co-signé d'ailleurs avec Norbert Bézard. Petit livre qui est aussi présent, je crois, dans l'une des vitrines. Donc c'est sans doute le projet qui a le plus retenu Le Corbusier. Alors on va, dans les 5-10 minutes qui nous restent, essayer de comprendre pourquoi. Le Corbusier, vous avez tous vu sa photo, la façon de s'habiller, ses nœuds papillons, ce n'était pas un paysan typique. On l'imagine mal en sabots de bois, arpentant nos campagnes des années 30. Même s'il est venu à Piacé à plusieurs reprises, et M. Bézard me le rappelait tout à l'heure. Alors, d'abord, il faut comprendre, et on va peut-être se remettre ça en tête, et on va revenir à notre idée d'urbanisation totale que nous avons évoquée tout à l'heure, il faut revenir à l'idée que Le Corbusier est un homme d'ordre qui entend mettre de l'ordre sur le territoire et de l'ordre dans la société. Il avait d'ailleurs une définition de l'urbanisme parfaite, il disait « l'urbanisme, c'est mettre de l'ordre là où est le désordre ». Je vous cite un portrait fait par Pierre-Franck Astel, l'historien de l'art, qui ne l'aimait pas, qui dit « Monsieur Le Corbusier est un homme d'ordre. Cet ordre, il le conçoit aussi bien en ce qui concerne la logique intérieure d'un système monumental que lorsqu'il s'agit de la discipline sociale. » Eh bien, c'est là que l'on trouve les raisons de cet intérêt pour l'agriculture. Le village radieux. Eh bien, je vous cite Le Corbusier, là. « La campagne, rendue radieuse, attirante, active, intense, la campagne est devenue un objet d'envie. Oui, alors les échoués des villes reviendront à la terre, et les villes, grands centres pourris d'une civilisation déchue, nettoyées de leur poids mort, se prendront, elles aussi, à revivre. Si l'on veut urbaniser les villes, il faut aménager les campagnes. » Et c'est donc avant tout la ville qui intéresse Le Corbusier, et il pense qu'il faut revoir la population urbaine, mais en humaniste qu'il est, il ne veut pas jeter, comme on l'a fait après les travaux d'Haussmann, les pauvres, les malheureux, les inutiles, hors de la ville pour vivre leur destin comme ils le peuvent, dans la zone. Il entend leur donner un lieu pour se redéployer, pour se refaire, pour se recréer, qui sera la campagne radieuse. C'est un leitmotiv que l'on retrouve en permanence. Et dès 1932, c'est-à-dire avant la publication du village radieux, on a le compte-rendu d'une réunion qui se tient à Genève, c'est les groupes plans organisent un débat, et quelqu'un, en conclusion de la conférence de Le Corbusier, dit « Mais que faire concrètement vous nous présentez votre ville radieuse, mais comment peut-on y aller ?» Et Le Corbusier dit « Classer les populations urbaines, trier, refouler ceux qui sont inutiles dans la ville. » En 1934, il dit « Il faudrait s'adresser à ceux qui ne sont pas à leur place. » Il faudrait bien leur dire un jour « Vous n'avez rien à faire dans la ville, retournez d'où vous êtes venus, dans vos campagnes, ainsi les villes seraient nettoyées. » Et encore un peu plus tard, aux urbanistes des villes de demander à l'autorité qu'elle renvoyât au champ tous ceux qui croupissent dans les villes. Et on retrouve d'ailleurs un certain nombre d'idées théorisées par Alexis Carrel, qui sera publié d'ailleurs dans Plan et dans Prélude, Science, autorité, ordre. Norbert Bézard approuvera d'ailleurs dans une lettre à Le Corbusier en 1933, il dit « mise en œuvre du plan sans dérogation, sauf celle apportée par l'autorité. Hein, toujours cette autorité. Alors, je ne voudrais pas terminer sur cette note, j'ai dit ombreuse tout à l'heure, un peu sombre. Toutes les utopies comportent ce genre de propos. Toutes les utopies sont totalitaires, au sens véritable du terme, tout prétendre, tout penser, tout organiser, tout gérer. Alors, est-ce qu'il faut dire, arrachons cette page, elle est malheureuse, ces phrases sont insupportables, elles le sont à nos oreilles aujourd'hui? Je ne crois pas, parce que ces idées n'avaient aucune chance d'advenir. Hein, même à Piacé, il n'était pas question de remembrer toute la commune, il n'était pas question de déplacer les villages. Et je pense que ce sont ces utopies qui instaurent une relation dialectique, je le disais en introduction, c'est en se heurtant à une réalité qui n'est pas acceptable non plus, eh bien, que naît un moyen terme. Et je pense qu'on le voit très bien avec ceux que nous avons évoqués, j'allais dire célébrés, c'est le lieu qui m'inspire, hein, ici aujourd'hui. Philippe Lamour, donc fondateur de Plan, ami de Norbert Bézard, ami de Le Corbusier, eh bien, Philippe Lamour, beaucoup plus mesuré en politique et surtout beaucoup plus enclin à passer à l'acte, alors que Le Corbusier se réfugiait souvent dans la théorie. Hein. Vous savez, par exemple, qu'il avait fait le plan de reconstruction de la Palisse, le port de La Rochelle, et il a préféré claquer la porte parce qu'un tout petit détail devait être réajusté de son plan, et plutôt que d'accepter cette modification, il a préféré ne pas reconstruire la Palisse. Il y avait une sorte d'absolutisme chez Le Corbusier, pas chez Philippe Lamour. Eh bien, Philippe Lamour, il va introduire véritablement toute la substance de nos planistes dans la politique française, en étant l'inventeur de la DATAR. C'est Philippe Lamour qui a produit le premier rapport qui va permettre la fondation de la DATAR en 1963. Cette DATAR acquit non droit l'extraordinaire transformation du territoire français, hein, et dans une certaine mesure, d'ailleurs, la fin de l'agriculture traditionnelle qui était moribonde, mais la transformation profonde de nos campagnes, et notamment la grande politique de remembrement qui va être la grande affaire des années 60 dans l'agriculture, spécialement de l'ouest de la France. Et il va trouver là l'appui, eh bien, de l'autorité. Quelle sera l'autorité qui crée la DATAR? C'est le gaullisme. Hein, c'est donc un État bienveillant mais autoritaire. Je vous encourage à lire d'ailleurs les propos de Jean Lacouture, biographe de De Gaulle, dans Libération de ce matin. Il va y avoir là un moment où le planisme sera aux affaires. Et d'ailleurs, qui a créé le plan dès 1946? Le général de Gaulle, hein, avec l'aide de Jean Monnet. Qui Jean Monnet a-t-il appelé immédiatement auprès de lui pour mettre en place ce plan? Eh bien, Philippe Lamour, bien évidemment, mais aussi un certain nombre de ceux qui étaient passés par les groupes plans et les groupes préludes. Donc, vous voyez, cette histoire, elle a été féconde, non pas dans la radicalité des dessins et des propos, bien sûr, de Norbert Bézard, de Le Corbusier et de quelques autres, mais c'est dans cette relation dialectique à une réalité têtue, eh bien, que le monde a pu être transformé, a pu être changé, et souvent de façon remarquable. Et Philippe Lamour, d'ailleurs, est aussi, au passage, l'inventeur d'un certain nombre de choses qui paraissent comme l'antithèse, et ça ne l'est pas, de ses idées. Il est l'inventeur, par exemple, des parcs naturels, idée qu'il avait trouvée aux États-Unis, mais c'est lui qui les a rapatriés en France, mais parce que c'était un aménageur, et qu'il pensait toujours que chaque chose devait être à sa place, on devait changer le monde, mais conserver quelques morceaux du vieux monde, hein, à titre scientifique et à titre documentaire, pour le plaisir aussi peut-être. C'est lui qui va mener aussi la grande politique d'aménagement du littoral français, aujourd'hui regardé avec beaucoup de suspicion, mais cette volonté planiste, donc, il la conduira. Aujourd'hui, il y a un lycée à Nîmes, il y a un canal dans le Midi qui porte le nom de Philippe Lamour, et qui a été, jusque dans le grand âge, hein, au-delà de 80 ans, le président du Conseil économique et social du Languedoc-Roussillon. Et vous voyez que cette histoire utopique rejoint aussi la réalité et qu'elle mérite, je crois, tout notre intérêt. Je vous remercie. Je ne sais pas quel est le rituel.
Non, il n'y a pas de rituel. Non. Simplement, on n'a sûrement pas le temps là, d'avoir
des... 5 minutes. Je suis désolé, mais j'ai un train.
Voilà. Donc, si vous avez une question, vous pouvez... Allez-y.
Est-ce qu'il y avait un soutien local ou est-ce qu'il y avait un soutien local à un groupe
Alors écoutez, c'est bien évidemment Nicolas et ses amis et M. Pierre Bézard qui pourraient répondre. C'est la question que je me suis posée quand j'ai découvert il y a bien longtemps maintenant Norbert Bézard et son projet. Je n'ai pas réussi à trouver de traces à l'époque. Des conversations qu'on a pu avoir, je crois qu'il n'avait pas beaucoup de support très concret, mais il avait certainement des amis, des gens qui l'aidaient à porter ce projet, parce que moralement, c'est quelque chose de considérable. Hein. Mais non, il faut pas penser qu'il a pu susciter un vaste mouvement d'enthousiasme dans nos campagnes. Hein. Ça, Monsieur Bézard répondra bien mieux que moi. Non, monsieur Bézard fait une mimique qui confirme que les troupes ne se sont pas levées comme un seul homme pour soutenir le projet. Non, mais ici, mais vous savez, le projet a été publié rapidement dans de nombreuses revues qui, elles, ont eu des lecteurs un peu partout, hein, et qui ont rencontré, comme j'ai essayé de l'expliquer, d'autres projets, d'autres ambitions. Et donc, ce n'est pas forcément localement que l'on sème, en l'occurrence, hein, mais ces idées ont fait leur chemin. Alors, il y a eu quand même, j'ai dit tout à l'heure que le projet avait été présenté dans le pavillon que Le Corbusier réalise en 1937 à l'Exposition internationale et universelle de Paris, et on trouve à la Fondation Le Corbusier de nombreux courriers d'ingénieurs agronomes qui demandent des précisions. Et Le Corbusier leur dit « Adressez-vous à Norbert Bézard ». Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait, et moi j'ai suivi la piste, par exemple, d'ingénieur agronome breton, et qui, effectivement, lui, a essayé de porter la bonne parole par ses écrits, en tout cas en Bretagne, persuadé qu'on ne pouvait pas bricoler dans le domaine de l'agriculture, qu'il fallait un grand chambardement et qu'il y avait là des idées qui pouvaient offrir quelques pistes. Je suis désolé, il va falloir passer le micro parce que j'ai très mal entendu. Bon, là, je crois que la cloche m'appelle, je suis désolé. Je vous remercie en tout cas de votre patience, d'être venus si nombreux.
Merci beaucoup.